Léonès, midi, sur notre plan, nous sommes en Afrique. Hic sunt Léonès. Et cela explique pourquoi nous y avons découvert tant de textes d'auteurs infidèles. Et il y en a d'autres, dis-je en fouillant dans les armoires. Canon, d'Avicenne, et ce manuscrit magnifique dans une calligraphie que je ne connais pas. À en juger d'après les décorations, ce devrait être un Coran. Mais malheureusement, je ne sais pas l'arabe. Le Coran ? La Bible des infidèles ? Un livre pervers ? Un livre qui contient une sagesse différente de la nôtre. Mais tu comprends pourquoi ils l'ont placé ici. Où sont les lions et les monstres ? Voilà pourquoi nous y avons vu cet ouvrage sur les bêtes monstrueuses, où tu as trouvé aussi l'unicorne. Cette zone, dite Léonès, contient les livres qui, pour les bâtisseurs de la bibliothèque, étaient ceux du mensonge. Qu'y a-t-il là-bas ? Ils sont en latin, mais traduits de l'arabe. Ayoub al-Rouawi, un traité sur l'hydrophobie canine. Et celui-ci est un livre des trésors, et cet autre, le De Aspectibus de Alhazen. Tu vois, ils ont placé au milieu des monstres et des mensonges même ces ouvrages scientifiques dont les chrétiens ont tant à apprendre. Ainsi pensait-on dans les temps où la bibliothèque fut constituée. Mais pourquoi ont-ils également mis parmi les faussetés un livre avec l'unicorne, demandai-je. D'évidence, les fondateurs de la bibliothèque avaient de curieuses idées. Ils auront jugé que ce livre qui parle d'animaux fantastiques vivant dans des pays lointains faisait partie du répertoire de mensonges répandus par les infidèles. Mais l'unicorne est-il un mensonge ? C'est un animal d'une grande douceur et hautement symbolique, figure de Christ et de la chasteté. Il ne peut être capturé qu'en plaçant une vierge dans une forêt, de façon que l'animal, attiré par son odeur très chaste, aille poser sa tête dans son giron, s'offrant comme proie au lac des chasseurs. C'est ce qu'on dit, Hatzo. Mais beaucoup sont enclins à penser qu'il s'agit là d'une fable inventée par les païens. Quelle déception, dis-je. J'aurais eu plaisir à en rencontrer un au détour d'un chemin forestier. Autrement, quel plaisir peut-on prendre à traverser une forêt ? Ça n'est pas dit qu'il n'existe pas. Peut-être est-il différent de la façon dont le représentent ces livres. Un voyageur vénitien alla dans des terres fort lointaines, à proximité du Fons Paradisis, dont parlent les mapmondes, et il vit des unicornes. Mais il les trouva mal dégrossis et sans nulle grâce, et d'une grande laideur et noire. Je crois qu'il a bien vu de vraies bêtes, avec une corne sur le front. Ce furent probablement les mêmes dont les maîtres de la science antique, jamais tout à fait erronés, qui reçurent de Dieu la possibilité de voir les choses que nous n'avons pas vues, nous transmirent l'image avec une première description fidèle. Puis cette description, en voyageant d'auctoritas en auctoritas, se transforma par successives compositions de l'imagination, et les unicornes devinrent des animaux gracieux et blancs et doux. En raison de quoi, si tu sais que dans une forêt vit un unicorne, n'y va pas avec une vierge, car l'animal pourrait ressembler davantage à celui du témoin vénitien qu'à celui de ce livre. Mais comment échut-elle au maître de la science antique la révélation de Dieu sur la véritable nature de l'unicorne ? Pas la révélation, mais l'expérience. Ils eurent la chance de naître sur des terres où vivaient les unicornes ou en des temps où les unicornes vivaient sur ces mêmes terres. Mais alors, comment pouvons-nous nous fier à la science antique, dont vous n'avez de cesse de rechercher les traces, si elle nous a été transmise par des livres mensongers qui l'ont interprétée avec une telle liberté ? Les livres ne sont pas faits pour être crus, mais pour être soumis à l'examen. Devant un livre, nous ne devons pas nous demander ce qu'il dit, mais ce qu'il veut dire. Idée fort claire pour les vieux commentateurs des livres saints. L'unicorne, tel qu'en parlent ces livres, masque une vérité morale ou allégorique ou analogique qui demeure vraie, comme demeure vraie l'idée que la chasteté est une noble vertu. Mais quant à la vérité littérale qui soutient les trois autres, reste à voir à partir de quelles données d'expérience originaire est née la lettre. La lettre doit être discutée, même si le sens latin garde toute sa justesse. Il est écrit, dans un livre, que le diamant ne se taille qu'avec du sang de bouc. Mon grand maître, Roger Bacon, dit que ça n'était pas vrai, simplement parce que lui s'y était essayé, et sans résultat. Mais si le rapport entre diamant et sang de bouc avait eu un sens plus profond, cette affirmation ne perdrait rien de sa valeur. Alors, on peut dire des vérités supérieures en mentant quant à la lettre, dis-je ? Et cependant, je regrette encore que l'unicorne tel qu'il est n'existe pas, ou n'ait pas existé, ou ne puisse exister un jour. Il ne nous est pas permis de borner l'omnipotence divine, et si Dieu voulait, même les unicornes pourraient exister. Mais console-toi, ils existent dans ces livres qui, s'ils ne parlent pas de l'être réel, parlent de l'être possible. Mais il faut donc lire les livres sans en appeler à la foi, qui est vertu théologale? Restent les deux autres vertus théologales, l'espérance que le possible soit et la charité, envers qui a cru de bonne foi que le possible était. Mais à quoi vous sert à vous l'unicorne si votre intellect n'y croit pas? Il sert, comme m'a servi la trace des pieds de Vénantius sur la neige traînée jusqu'à la cuve des cochons. L'unicorne des livres est comme une empreinte. S'il est une empreinte, il doit y avoir eu quelque chose qui a laissé cette empreinte. Mais différente de l'empreinte, vous me dites? Certes, une empreinte n'a pas toujours la forme même du corps qui l'a imprimée, et elle ne naît pas toujours de la pression d'un corps. Elle reproduit parfois l'impression qu'un corps a laissée dans notre esprit. Elle est empreinte d'une idée. L'idée est signe des choses, et l'image est signe de l'idée, signe d'un signe. Mais à partir de l'image, je reconstruis, sinon le corps, l'idée que d'autres en avaient. Et cela vous suffit? Non, parce que la vraie science ne doit pas se contenter des idées, qui sont précisément des signes, mais elle doit retrouver les choses dans leur vérité singulière. J'aimerais donc remonter de cette empreinte à l'unicorne individu qui se trouve au début de la chaîne. De même que j'aimerais remonter des signes vagues laissés par l'assassin de Vénantius. Signes qui pourraient renvoyer à beaucoup d'autres, à un individu unique, l'assassin en personne. Mais ça n'est pas toujours possible en un court laps de temps, sans la médiation d'autres signes. Mais alors, il m'est toujours et uniquement possible de parler de quelque chose qui me parle de quelque chose d'autre et ainsi de suite. Mais le quelque chose final, le vrai, ne l'appréhende-t-on jamais? Si, peut-être. C'est l'unicorne individu. Et ne t'inquiète pas, un jour ou l'autre, tu le rencontreras pour noir et laid qu'il soit. Unicorne, lion, auteurs arabes et morts en général, dis-je alors. Sans nul doute, c'est bien ici l'Africa dont parlaient les moines. Sans nul doute, c'est elle. Et si c'est elle, nous devrions trouver les poètes africains auxquels se référait Pacifico de Tivoli. Et de fait, en parcourant notre chemin à rebours et en regagnant la pièce L, je trouvais dans une armoire toute une collection de livres de Florus, Fronton, Apulée, Marcianus Capella et Fulgence. Donc c'est ici, selon Béranger, qu'il devrait y avoir l'explication d'un certain secret, dis-je. Presque ici. Il employa l'expression finis africae, et c'est à cette expression que Malachis s'irrita fort. Le finis pourrait être cette dernière pièce, ou encore... Il eut une exclamation. « Par les sept églises de Clonmacnois, mais tu n'as rien remarqué !»« Quoi ? » ?»« Revenons sur nos pas à la pièce S, d'où nous sommes partis. » Nous revînmes à la première pièce aveugle où le verset disait « Super tronos viginti quatuor ». Elle avait quatre ouvertures. L'une donnait sur la pièce Y avec fenêtre sur l'octogone. L'autre donnait sur la pièce P qui continuait le long de la façade extérieure, la série Hispania. Une autre, vers la tour, desservait la pièce E que nous venions de parcourir. Puis il y avait un mur plein et enfin une ouverture qui desservait une seconde pièce aveugle avec l'initiale U. La pièce S était celle du miroir, et heureusement que ce dernier se trouvait sur la paroi immédiatement à ma droite, sans quoi j'eusse été de nouveau pris de peur.